conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.
Bonjour chers auditeurs, nous rentrons à l'instant de Strasbourg où l'actu a été comme vous le savez, assez dense et un petit peu mouvementée. Alors on est un petit peu plus assagi ce matin. Je reçois l'agence Petit Didier Priou. Bah évidemment, je vais faire comme Dupont et Dupont. Qui est Petit Didier, qui est Priou? Les garçons?
Il y a un moyen mnémotechnique très simple.
Le grand et le petit, c'est ça?
Voilà, petit Didier, c'est le grand.
Et Priou, le petit.
Eh ben voilà, on y est déjà. Bah écoutez, il faut commencer avec de l'humour. Je vais vous interroger sur un truc qui nous tricote un petit peu la tête, le BIM. Juste un petit peu comme ça, au fil de l'actu, comment on fait pour protéger un peu ses sources? Comment on fait pour trouver le juste milieu entre ce qu'il faut faire pour avoir une maquette numérique de qualité et ce qu'il faut faire pour se protéger ou protéger en tout cas ses sources?
Bon, si on savait, ce serait super. Nous, on a...
Non, mais je pensais justement que tu allais me donner la clé
pas,
ce matin.
J'ai pas la clé. Par contre, effectivement, ça pose effectivement plein de questions, voire de problèmes, puisqu'au final, on a une expérience BIM sur un chantier, en conception, réalisation. Et on s'aperçoit bien qu'on, si on veut vraiment jouer le jeu, il a fallu ouvrir la maquette, donner, dit donner parce qu'au final c'est pas vendu cette
prestation. Oui, c'est ça, c'est exactement, c'était ça le truc.
Donner à toutes les données, tout, et puis en fait c'est complètement accessible à tout le monde. Donc nous, sur cette expérience-là, on n'a pas eu le recul nécessaire.
C'était une mission, vous aviez une mission complète ?
Oui, mission complète, absolument. On n'a pas eu d'autre choix que de faire confiance et de croiser les doigts pour que ça se passe bien, mais c'est assez... léger comme protection, mais effectivement le BIM, c'est la grande inconnue à ce niveau-là.
Alors comment ça se fait aujourd'hui? Qu'en penses-tu? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on n'arrive pas à, je dirais, insuffler à l'ordre quelques précautions et nous aider là-dessus?
Mais je pense qu'aujourd'hui il n'y a peut-être pas encore assez de pratiques en France. On voit bien que nos camarades anglo-saxons sont un peu plus avancés que nous sur le sujet. Néanmoins, pour les avoir interrogés il n'y a pas très très longtemps, ils ont les mêmes interrogations que nous, notamment sur les responsabilités dont découle la maquette numérique. Et donc, pour eux, par exemple, chaque interlocuteur est responsable de ce qu'il produit et n'est pas responsable de ce que les autres mettent dans la maquette numérique. Et donc, il faut forcément qu'il y ait un historique.
C'est cool. Comment on arrive à tricoter un historique au bout de 5 ans ou 10 ans?
De qui fait quoi? Et je pense que c'est là la grande traçabilité de qui fait quoi.
D'accord, c'est un peu comme le bœuf aux hormones, quoi.
C'est un peu pareil.
Voilà. Bon, mais ça ne me rassure pas du tout parce qu'en fait, vous n'arrivez pas à me donner des billes. Est-ce que la profession aujourd'hui s'organise un petit peu par rapport à ça?
Nous, aujourd'hui, on ne le voit pas vraiment. On sait cependant, on se pose vraiment la question de la nécessité du BIM, notamment sur le logement. On voit bien que le BIM, jusqu'au bout, avec des entreprises en lots séparés, c'est un peu compliqué jusqu'à la fin. Et on sent bien que la grande demande, c'est plutôt sur la modélisation 3D plutôt que le BIM en tant que tel. Et du coup, le modèle 3D, on sait le faire, on en a besoin, on conçoit comme
nous,
tel.
On conçoit comme
voilà.
Ça.
Voilà. Et donc, on se dit, le BIM, pourquoi pas, mais jusqu'où?
D'accord. Alors bon, je suis pas sûre qu'aujourd'hui on arrive à trouver toutes les questions. Est-ce que vous avez répondu là sur les fameux concours de la métropole du Grand Paris? Vous êtes pour, vous êtes contre? C'est quoi un peu votre état d'esprit là-dessus?
Ni pour ni contre, bien au contraire. Non, on n'a pas répondu. C'est-à-dire que oui, on a fait une offre en réalité, mais qui n'a pas été retenue.
Ouais.
On n'a pas couru après, pour être tout à fait franc. On entend d'ailleurs pas mal de confrères ou de professionnels, de partenaires qui sont très contents d'y être, mais qui en même temps nous font part de leur doute, voire de leur agacement face à la somme de travail qui est demandée, face à l'investissement, et pour un retour effectivement assez aléatoire. Sur le Grand Paris, beaucoup de sites. Est-ce que tous sont intéressants ou est-ce que tous portent des enjeux absolument vitaux? On n'en est pas persuadé. Il y a quand même pas mal de sites qui étaient assez connus par,
Oui, par la profession.
Par la profession,
bien sûr,
voilà. Bon, voilà,
c'était quoi? C'était pour faire du buzz, pour être exposé à l'arsenal?
Non, rien de tout ça. Je pense qu'en fait, l'enjeu est vraiment très bien. C'est-à-dire qu'on est quand même on est au 21e siècle, donc il y a l'idée de dire qu'on n'est plus à l'ère des grands projets, des grands objets, de l'architecture spectacle. Et donc, il y a comme ça plutôt un réseau de projets qui se mettent ensemble à réfléchir sur le territoire.
Tu crois que ça enlève vraiment le spectacle ?
Alors, c'était le postulat de départ et c'était très bien. Au final, on a quand même vu certaines opérations, et on y revient toujours, l'architecture spectacle, c'est quand même un des mots importants actuellement. Et on a vu certaines opérations qui se tirent la couverture, qui n'ont pas vraiment le fond attendu au départ. Et donc, on a toujours tendance un petit peu à retomber dans ces vieux travers. C'est dommage parce que la question de départ était très bonne. L'idée de construire la ville comme ça par maillage, par réseau de projets, et non plus par acupuncture de projets manifestes, ça pouvait nous intéresser.
Alors, est-ce que le maillage, ça évite l'entre-deux? Est-ce que le maillage fait qu'on a un maillage suffisamment intense et enrichissant qu'il n'y a personne qui reste sur le carreau?
Alors, c'était l'idée de départ, c'était l'idée de projet groupé. Et en fait, au final, on voit que chacun tire un petit peu dans son coin. Et ça, oui, c'est regrettable parce qu'en fait, ça manque. On peut regretter le manque de cohérence quelque part. Et bon, on va voir. Il y a maintenant Grand Paris 2, réinventer le Grand Paris 2.
Vous mettez en lice les garçons là.
Alors, il y a quand même un sujet qui a du sens parce qu'il y a un thème. Ouais. Je crois qu'il n'y avait pas ce thème. Ouais. Il n'y avait pas de thème sur le Grand Paris 1. Là, c'est les sous-sols. Pourquoi pas? C'est pas inintéressant d'exploiter ces non-lieux, ou plutôt ces lieux abandonnés. Donc au moins, ça a le mérite de la cohérence. Nous, on va voir. Pour l'instant, on est un petit peu en retrait par rapport à tout ça. Pas par... Pas forcément par choix. Voilà, on a aussi d'autres activités, que ce soit dans Paris ou même à l'échelle de la métropole. Et donc, on n'a pas eu ce besoin, ce manque ou cette envie de candidater absolument.
Parce que quand même, c'est un vrai engagement de temps. Et puis, ça déstabilise un petit peu les agences d'archi, et ça déstabilise aussi chez notre cher maître d'ouvrage, les équipes, qui se plaignent quand même d'avoir, en plus de leur travail habituel, toutes ces consultations. Est-ce à dire qu'il vaut mieux les faire sur un temps un petit peu plus court, avec une intensité, je dirais, de rendu qui fait qu'on n'étale pas sur un an, une année entière, les candidatures, etc.
Alors effectivement, c'est quand même des consultations qui sont extrêmement mobilisatrices, vu qu'il faut réinventer à la fois la manière de faire, la manière de penser et la manière de rendre. Et en général, en plus, elles se font avec plusieurs architectes, et donc il faut une coordination, etc.
Quand il y a des stars qui viennent de l'étranger.
Exactement. Et donc, on a eu une expérience récente, pas forcément.
Bah oui. Il y a Richard Rodgers qui a concouru, of course.
Et donc, oui, et on a eu une expérience récente à Nice où on a participé à une consultation pour la nouvelle Méridia, avec une équipe de 7 architectes, plusieurs maîtres d'ouvrage, etc. Et ça s'est fait dans un temps relativement court, puisqu'on a travaillé 4 mois dessus. Ouais. Le rendu a été fait, aura le 20 décembre prochain. Et donc, cette temporalité-là est plutôt pas mal.
Donc, ça veut dire qu'il y avait l'été dans ces 4 mois?
Alors, on a rendu le 1er août, donc juste avant l'été.
Avant les vacances. Non, mais c'est ça, en fait.
Mais ça, c'est pas mal, 4 mois.
Ça enlève rien
à la crédibilité.
Absolument.
Et à la créativité, je dirais.
Absolument, c'est ce que soulignait Vincent, c'est très juste. Un an, c'est beaucoup trop long. 4 mois, c'est très bien, une sorte d'esquisse plus. En fait, quand les idées sont là et permettent au maître d'ouvrage de s'engager sur un budget, sur un calendrier, bon, voilà, on n'a pas besoin de détails d'exé, on n'a pas besoin que ça dure un an. Il y a aussi une confiance mutuelle à retrouver avec notamment avec les aménageurs.
Alors après, est-ce qu'on peut avoir un chiffrage aussi fin? Parce que c'est peut-être ça aussi, la peur des maîtres d'ouvrage de ne pas avoir la possibilité d'un chiffrage.
La peur, elle est en réalité pas forcément chez les maîtres d'ouvrage, elle est plutôt de l'autre côté, côté ville, côté aménageur. Ouais. Il y a une crainte des maîtres d'ouvrage, parce qu'en fait, en réalité, on nous demande aujourd'hui d'être en équipe et en symbiose avec nos maîtres d'ouvrage. Très bien. pas de problème. Mais donc, le projet qu'on présente, on y est tous attachés, on est tous solidaires vis-à-vis de ce projet. Et donc, je pense que s'il y a une crainte, elle est plus forcément chez les maîtres d'ouvrage, qui ont d'ailleurs, au passage, et ça c'est plutôt pas mal, c'est la vertu de ce genre d'exercice, ils ont appris les concours, ils ont appris
Tu veux dire que les équipes sont rodées, tout va bien maintenant, on va pouvoir...
Oui, c'est-à-dire que le stress du concours, la charrette, le trouver la bonne idée au bon moment, etc., c'est plus réservé aux architectes.
C'est bien,
mais
c'est
du coup,
super.
On a enrôlé nos maîtres d'ouvrage dans cet exercice, et ça, c'est plutôt...
Bon, bah, écoute, du coup, toute cette histoire, c'est plutôt positif.
Au final, il faut voir le verre à moitié plein.
D'accord, mais ça, tu prêches une convaincue là-dessus, tu sais. Je peux pas m'empêcher de penser à votre actu, j'aimerais bien que vous la développiez. J'ai surtout en mémoire un joli petit projet Boussico que j'avoue avoir tweeté, re-facebooké, linkedé, j'en passe et des meilleurs.
Merci.
Je ne suis pas une groupie de base, mais éclairée. Vous m'expliquez un petit peu, Boussico et le reste?
Alors Boussico, c'est un contexte absolument génial où on a fait acte de candidature auprès de Next City pour participer sur le concours du dernier lot de la ZAC Boussico, le lot D, qui était un projet du coup mixte avec une partie pour Elogie et une partie pour la CARAC, qui est la mutuelle des anciens combattants, et une partie foyer pour handicapés mentaux pour les jours heureux. Donc on fait le concours. On s'aperçoit que le terrain est extrêmement dense et que le programme ne rentre pas tout à fait. Et néanmoins, on avait cette volonté d'avoir une traversée dans l'axe du jardin historique de la ZAC,
la
et donc de vider le rez-de-chaussée du bâtiment, voire un petit peu plus. Donc on est monté R+1. Et donc tout le travail, il a été fait là-dessus, en fait, de densifier les parties latérales et d'ouvrir sur cette partie qu'on a appelée le nuage, sur une cour parisienne, une nouvelle cour parisienne, et d'offrir la transparence depuis la vue sur le cœur de la ZAC. Et c'est sur cette idée qu'on a gagné, c'est cette idée qu'on a développée jusqu'à la livraison.
Et donc il y a bientôt une inauguration?
Alors inauguration officielle de la ZAC le samedi 7 octobre, voilà, absolument.
Dans une
après
semaine.
Après-midi, dans une semaine, effectivement, voilà, la ZAC est maintenant terminée, les espaces verts ont poussé, le square notamment au milieu du quartier, et puis comme nous avions le dernier bâtiment, finalement, tout le monde nous attendait.
Bon, alors, et donc le reste de l'actu, c'est quoi?
Reste de l'actu, on a quelques concours très intéressants. Je pense notamment à un concours à Toulouse qui...
Donc vous allez renouer avec la brique, une fois de plus.
C'est fortement probable.
Attends, c'est en concours, on ne peut pas dire.
T'as pas
le
choix.
Le sujet est extrêmement intéressant, puisque l'enjeu, c'est avec le bureau d'études Elitis, qui est aussi promoteur d'ailleurs sur cette opération.
D'accord.
Et l'enjeu, c'est facture énergétique à 0 €. C'est-à-dire au-delà des labels, au-delà des notes, au-delà des certifications, ce qui les intéresse là, c'est que l'habitant final a une facture énergétique de 0 €. Et comment on fait pour arriver à ça en tant qu'architecte? Ça, c'est un sujet qui vraiment nous passionne. Et puis, quand on voit le nombre de familles qui n'arrivent pas finalement à payer leur facture énergétique, c'est un vrai enjeu. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme actualité?
On a un joli petit projet à Paris, rue Philippe de Gérard.
Connais bien cette petite rue vers la gare de l'Est, la gare du Nord.
Et donc 100% bois.
Dans un entre-deux.
Et voilà, et on a travaillé sur réinventons le logement. Voilà.
C'est une nouvelle manière finalement de... On a fait des plateaux.
Et vous avez des planchers bois quand même?
Les planchers seront mixtes. L'idée en fait qui est importante, c'est que c'était une parcelle un peu bizarre. Donc on a proposé au promoteur Vinci de travailler plutôt sur forme de plateau, grand plateau libre, et avec la possibilité de les rediviser, repartitionner, etc. Mais à la demande, voilà, c'est un immeuble à la carte.
Ça, c'est du bobo parisien, on peut pas faire ça ailleurs, hein, non? Je suis un peu provoque
pas
en disant ça.
Non,
mais...
puisqu'au final, on a étudié toutes les configurations possibles. Alors, il y a une formule mathématique, on doit être à plus de 1000 configurations possibles, mais au final, il y a du T2, du T3, du T4 possibles. Évidemment, le grand plateau de 150 mètres carrés.
J'espère que vous allez bien vous faire payer les TMA, parce que c'est quand même une gageure.
Ça fait partie du contrat, effectivement. Il faut aussi réinventer le contrat.
Bon, on va clore là, mais il y a plein de choses à dire et à redire. En tout cas, je serais ravie de pouvoir vous recevoir, je ne sais pas, dans un an, on verra bien.
Avec plaisir.
Merci beaucoup, Myriam.
Au revoir. À bientôt sur nos antennes.
Conversation urbaine et architecturale. Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.